France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et en ce deuxième jour de printemps, quelques conseils pour profiter au mieux de son jardin, de sa terrasse ou de son balcon. Que doit-on y faire en ce moment? Avec nous ce matin, Philippe Collignon et Lola Perrier. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Bon anniversaire pour votre 57e anniversaire.
Balance, âge,
donc bon anniversaire.
Écoutez, merci. Je pense que vous êtes trompé sur l'âge, mais je ne crois pas.
Je crois pas. Vous êtes chef de restaurant One Place à Rungis dans le Val-de-Marne. Au menu de votre recette à partager ce week-end.
Alors une recette qui est absolument fondante, absolument délicieuse et qui va directement dans votre cul, le loukoumades de ma belle-mère Nafsika, une recette grecque bien huileuse et avec beaucoup de miel.
Bonjour Yolaine de Chanot.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef au Parisien Week-end, quel sera votre plaisir littéraire qui me donne très 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 envie?
Eh bien, c'est un livre d'horreur, comme il y a des films d'horreur, il y a des maisons hantées, des fantômes, des phénomènes paranormaux. Ça s'appelle L'Hôtel et c'est signé Daisy Johnson.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien, ça ne vous aura pas échappé, on est le premier jour du printemps et question donc, que faire du printemps?
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef déjanté de la rubrique cinéma dans Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine?
Alors d'abord, je devrais dire qu'on n'est pas là pour souffrir.
On n'est pas là pour
c'est
souffrir.
On fait un petit coucou à un ami commun, n'est-ce pas Ali?
Monsieur Gérard Lefort.
Voilà, donc nous ne sommes pas là pour souffrir. Et moi, je vais vous parler d'un jardinier, oh mon Dieu, très particulier.
Je ne sais pas s'il va nous faire souffrir ou pas. Il s'appelle Frédéric Sigrist, comédien et producteur de l'émission et du podcast Blockbuster sur l'appli Radio France. Il remplace cette semaine Sandra Colombo au menu de votre chronique « Mauvaise langue ».
Je suis évidemment l'homme de la situation, ben Ali. Jardinage, qui dit jardinage et conseil jardinage dit Sigrist. Non, jamais.
Ça, on verra jamais. Ça en fin d'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
On ne consomme que du jardin. Voilà, terminé.
On a un potager?
Oui, on a un potager. On s'y est mis. Mmh. Ah bah attends, je trouve, quand t'as un petit carré de jardin, t'as plus d'excuses, vraiment. Et puis c'est hyper facile, ça donne, c'est hyper sympa.
Tu m'as pas dit, moi j'ai envie de me goûter pour en ramener.
Mais j'en emmène toujours un peu.
Attends,
ah, tous les jours, j'ai mon petit
top. Les cachetières, là.
Attends, je vais te montrer ma production.
Ah bah d'accord.
La maraîchère, là.
Oui, les salades.
Regarde-moi la qualité de cette salade.
Elle est toute petite.
Ah bah évidemment, quand tu les irradies pas, elles n'ont pas l'air de sortir de la salle de sport.
Vous aurez reconnu évidemment Catherine et Liliane. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Journaliste et chroniqueur à Télématin sur France 2, ancien professeur de botanique et de biologie végétale en lycée agricole et horticole. Et vous publiez L'aquaponie pour les nuls chez First. Avant de recevoir ce livre, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est quoi? C'est un système qui fait intervenir des poissons dans le but de fertiliser naturellement les plantes cultivées. Si j'ai bien lu la quatrième de couverture.
Et vous l'avez très bien lu. C'est un cercle vertueux. Effectivement, on a une serre, on a des poissons, et puis les poissons, bah, ils émettent des matières organiques, de l'urine, et cette matière est récupérée dans les potagers en hauteur ou pas, et en tout cas, c'est un cercle vertueux, comme ça, et à la fois, le jardin est arrosé, mais également aussi fertilisé naturellement. On peut consommer les poissons, on peut consommer les légumes.
Et donc, ça s'appelle donc l'aquaponie. Bonjour Lola Perrier.
Bonjour.
Vous êtes agricultrice, maraîchère, food gardener, en bon français, ça veut dire jardinière de cuisine. Et vous aviez publié chez Hachette Livre un potager haut en couleur, cultivé la variété tomate violette, laitue rosée ou encore radis jaune. Tiens, qu'est-ce qu'on doit planter en ce moment, là, dans son jardin? On y reviendra largement tout au long de cette émission, mais qu'est-ce qu'on peut planter? Voilà, on commence à retrouver son cher jardin, son bout de balcon, de terrasse où on a un petit peu de terrain. Qu'est-ce qu'on peut planter?
Eh bien là, déjà, on peut tout d'abord commencer par planter nos petits oignons. Ouais. Il est encore temps de planter l'ail aussi, également. Et puis, bon, le printemps, c'est un peu le moment de l'effervescence. Ouais. On peut s'attaquer à plein d'autres choses, comme différentes salades ou de la sucrine. Et voilà. Et puis surtout, c'est l'heure de faire plein de semis.
Ouais. On va y revenir tout à l'heure sur les semis. Alors, c'est le deuxième jour du printemps. Comment vous vous sentez en ce moment? Vous vous sentez renaître, peintre Philippe Collignon ?
Moi, toute l'année. Il n'y a pas que le printemps. Non, je suis tout le temps en émulation, ouais, effectivement. Mais alors, il faut faire attention dans le jardin. C'est-à-dire que c'est le printemps, mais c'est un printemps calendaire. Il faut déjà regarder un peu la température, parce que souvent on dit le bon jardinier ne jardine pas en dessous de 10 degrés. Il faut attendre qu'il y ait 10 degrés au moins pendant 7-8 jours constants. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des insectes qui dorment, encore de la biodiversité qui commence à peine à frétiller. Et si vous commencez à retourner votre sol, à faire n'importe quoi, vous allez détruire une partie de cette biodiversité. Donc déjà, la première chose à faire, c'est tranquille. Attendons qu'il y ait 10 degrés constamment, ça dépend des régions. Et ensuite, on peut commencer effectivement les semis. On peut les commencer à l'intérieur, on peut les commencer sous serre froide, sous serre chaude, sur paille, évidemment, les couches chaudes, on appelle ça. Mais on y va tranquille. Vous savez, moi, je suis partisan du jardin un peu à la fainéantie. C'est-à-dire que tranquille, on observe et on fait le minimum de choses pour avoir un maximum d'impact sur la biodiversité.
Lola Perrier, comment vous vous sentez en ce moment ?
Moi, je me sens très, très, très impatiente de commencer. Surtout que bon, l'année dernière, on a quand même eu un printemps et un été sacrément pluvieux. Et là, je le sens très, très bien, là, vraiment.
Grégory Cohen ?
Ah ben moi, ça y est, j'ai commencé à tout préparer dans mon potager. J'ai un potager, une serre, donc je suis.
Qu'est-ce que vous faites concrètement là, en ce moment, dans votre serre et dans votre potager ?
Les bulbes, par exemple, moi j'ai laissé de l'ail qui a germé naturellement. Et en fait, quand on voit son ail qui germe, il y a deux solutions. Alors, soit on prend, par exemple, les gousses d'ail, on peut les faire germer une par une, et du coup, elles poussent même beaucoup plus vite. Mais si on laisse la gousse d'ail entière et qu'on commence à avoir ces petites germes, donc c'est-à-dire quand ça commence à pousser vert, eh ben ça, il faut la prendre. On la remet dans un verre avec un petit peu d'eau et d'humidité. Elle va pousser encore plus, et après, on peut la planter. Et du coup, on a de l'ail, ça, c'est génial. Donc, les bulbes, vachement faciles à mettre aujourd'hui.
Lola Perrier, comment on va planter cette ail germée ? Comment on fait ? Comment on s'y prend ?
Alors moi, personnellement, j'utilise plutôt les cailleux, c'est-à-dire ce qu'on appelle une gousse plus communément, et je les plante directement dans le sol avec 10-15 cm d'intervalle. Et puis, en fait, ce qui est pratique avec, par exemple, l'ail ou l'oignon, c'est que ce n'est pas des cultures qui demandent à être particulièrement amendées, et puis on n'a plus grand-chose à faire ensuite. Il suffit de ne pas trop irriguer non plus, parce que sinon, tous ces bulbilles et ces cailleux risquent de pourrir. Et puis hop, en juin, juillet, fin juillet, début... je veux dire fin juin, début juillet, hop, on aura enfin nos récoltes.
Ça veut dire quoi, amender, pour Thibaut de Saint-Maurice ?
Amender, ça veut dire nourrir son sol, en fait. Nourrir son sol et puis nourrir ses plantes. Et puis, toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs, en fait.
Et puis, l'ail, c'est une belle culture. C'est une interculture. On peut le planter parce que ça repousse aussi les insectes. On peut le planter près des tomates, etc. Ça fait partie des plantes compagnes. Et ça repousse. Il y a une huile essentielle qui repousse les pucerons et d'autres piqueurs suceurs.
Et les vampires, non ?
Ça, c'est plutôt pour
les piqueurs suceurs.
Philippe Collignon, si on dispose d'un jardin, comme 60% des ménages français, et qu'on l'a laissé en jachère tout l'hiver, qu'on a été très, très, très paresseux, que faut-il faire en priorité ? Qu'est-ce qu'on fait ? On redécouvre son jardin qu'on a un peu délaissé pendant quelques mois.
Le problème, si vous l'avez laissé trop longtemps, bon, il y a des adventices qui vont pousser, etc. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est soit on met des cartons, vous savez, non ancrés, sur le sol pour que tuer naturellement les adventices, donc on le laisse reposer. Soit on a des bâches plastiques très très noires que l'on utilise d'une année après l'autre pour en fait occulter la lumière, donc déjà pour tuer entre guillemets un petit peu les adventices. Ensuite, moi je suis pas pour le partisan de retourner son sol comme dans le temps, c'est-à-dire qu'on retourne toutes les couches du sol à 30-40 cm avec un bon vieux motoculteur thermique. Non, on essaie d'éviter justement ce mélange des couches et de presque on pourrait jardiner sans creuser carrément avec ses mains.
Mais qu'est-ce qu'on fait si le gazon n'est pas forcément en bon état, si on y retrouve de la mousse, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, si vous voulez redémarrer votre gazon, donc déjà il faut enlever les feuilles mortes si vous en avez laissé, parce que généralement on ne laisse pas les feuilles mortes en automne, donc si on les enlève, ça fait des taches, des trous. Ensuite on peut le scarifier, c'est-à-dire...
C'est quoi ça ?
Le scarifier, on peut louer la machine, c'est beaucoup plus simple, et on va griffer sur 10-15 cm ce gazon. Donc vous griffez, vous allez enlever certaines adventices, vous allez enlever des racines mortes, vous allez aérer votre sol, et ensuite on va amender, on va mettre du terreau et on va amender de manière à faire repartir le gazon.
Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, ça ?
Eh bien, au fur et à mesure, vous allez avoir des mousses, le sol va se tasser et vous allez avoir des trous, des taches, une calvitie précoce de votre gazon.
Lola Perrier.
Je pense que la toute première étape, quand on commence le printemps, c'est avant tout de faire en sorte que le sol se réchauffe aussi. Donc si on a couvert son sol avec des bâches en plastique, il faut les enlever parce que bon, bah voilà, ça y est, il faut que l'eau s'évapore, il faut que tout ça reprenne de la vie. Et puis ensuite, il faut effectivement amender, donc nourrir. Mais ça, il faut bien faire attention parce que toutes les cultures n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est pour ça qu'il faut, généralement, en hiver, on a préparé tout un petit planning et il faut s'y tenir au printemps. Quoi.
Et puis surtout, il faut vraiment rester sur le sol. Le sol, on dit on n'a pas la main verte. Si on veut avoir la main verte, il faut maîtriser son sol. Il faut le connaître, il faut l'améliorer, il faut l'analyser parfois pour savoir le pH, etc. Et il faut le respecter. Parce que si on ne respecte pas son sol, le sol, c'est souvent quand ce qu'il y a sous nos pieds, on ne s'y intéresse pas vraiment. Il y a des vers de terre, il y a des bactéries, etc. Il y a à peu près une tonne de vers de terre à l'hectare. Quand il y en a moins, il y a un petit problème. Donc en fait, l'idée de quand on commence à gratter et qu'on a des vers de terre, ça c'est la joie du premier printemps.
Vous parliez de pH, pourquoi c'est important ce pH du sol ?
Parce que déjà il varie selon les saisons, mais en plus si on a un pH qui n'est pas adapté aux plantes, si on a un pH trop acide...
Donnez un exemple précis.
Par exemple, si vous plantez des rhododendrons, des azalées, etc. dans un pH qui est dans un sol calcaire, eh bien vous êtes sûr, vous allez avoir des fausses carences, ça ne va pas aller. Donc en fait, l'idée c'est, quand on n'a pas la main verte, c'est qu'on se force, on est entêté à planter une plante qui ne s'adapte pas ni dans le sol, ni dans sa région, ni à la bonne exposition. Donc connaître son sol, connaître son climat, connaître sa région, de planter des plantes dites indigènes, des plantes qui poussent dans la région, c'est la première chose à faire.
Lola Perrier ?
Oui, puis je veux dire, pour remédier à tout ça, on peut déjà apporter énormément de compost, ça peut aider vraiment à réguler un petit peu...
C'est vrai, c'est le vrai retour du compost au jardin. On composte, c'est un cercle vertueux aussi.
Hein. Oui, quand je parle de compost, je parle de dégradation de matière organique et en fait ça va aider à nourrir votre sol et aussi à réguler un peu ce pH. Alors ça sera le cas que pour une année, mais c'est déjà un bon point de départ pour attaquer ses plantations et ses semis.
Et le compost, ça se retourne comme le sol. C'est-à-dire parfois il faut quand même, il suffit pas d'entasser les éléments les uns sur les autres. Il faut l'aérer, il faut le retourner.
Vous disiez Frédéric Segrist,
il faut touiller. Hein. Des fois il y a des habitants, il y a des habitants dans le compost. Hein. Les petits rongeurs qui grossissent. Voilà.
Vous êtes un très grand jardinier,
Mais je suis à fond,
Frédéric Segrist. Allez, il est déjà l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Yolaine de Chano du Parisien Week-end. Yolaine de Chano, rédactrice en chef du Parisien Week-end, quand vous m'avez proposé Hôtel de Daisy Johnson, publié chez Stock, je dois vous avouer que cet hôtel genre Famy Adams m'a vraiment donné envie.
Oui, on a tous les ingrédients. C'est un hôtel qui est construit sur une terre marécageuse et maudite, une terre sur laquelle est morte violemment une femme que l'on traitait évidemment de sorcière. Un hôtel dont la construction a été un cauchemar, un hôtel qui s'est choisi une architecture néo-gothique, haute cheminée, étroite fenêtre, des vitraux qui assombrissent l'intérieur. C'est, comme vous le disiez, le château de la famille Adams. Mais l'atmosphère du livre fait plutôt penser au projet Blair Witch. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, caméra à l'épaule, ou à Shining, vous savez, Jack Nicholson, les grands couloirs parés de moquettes, les jumelles maléfiques, etc. À une différence près, c'est que cet établissement anglais reçoit des clients. On a une famille dans les années 60, une bande de copines à l'occasion d'un enterrement de vie de jeune fille, des cadres en séminaire, il y a beaucoup de personnel. Les personnes et surtout les femmes qui y séjournent assistent à des phénomènes troublants et glaçant, surtout dans la chambre 63. On ne sait jamais trop pourquoi. Une fillette se trouve une amie et rêve de l'emmurer. Une jeune femme épouse un espèce de monstre tapis dans les murs et dont les dents sont faites de briques. La buée des miroirs laisse apparaître des messages. Les couloirs s'agrandissent ou rétrécissent. Les morts sont des silhouettes translucides qui prennent l'ascenseur. Bref, le livre n'est pas très long. C'est plutôt des courts chapitres, quasiment des nouvelles, avec à chaque fois ces aventures un peu horrifiques, qui relatent donc différentes histoires terrifiantes. Et ce qui est étonnant, c'est que l'autrice de ce roman atypique, eh bien, c'est une Britannique avec des jolies joues bien roses, une longue chevelure blonde, elle est tout à fait angélique. Elle est née il y a 35 ans, le jour d'Halloween, et elle assume un goût pour tout ce qui est frais. Vous avez peut-être entendu parler d'elle, son dernier roman qui était intitulé Sœur a été adapté au cinéma, c'est sorti il n'y a pas longtemps, sous le titre September and July, et c'était deux sœurs aux relations plutôt malsaines et dérangeantes, il y avait déjà un peu comme ça ces ambiances glauques. Alors, je vous conseille ce petit bijou de littérature gothique. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire une pause avec l'autofiction, la littérature dite feel good, ou les polars bien troussés mais aux recettes un peu trop bien rodées. On fait une pause, on se prend un petit bouquin comme ça, angoissant, auquel on ne comprend pas tout. Ça dérange, le malaise s'installe. mais on ne décroche pas. C'est un peu cet hôtel qui nous hante à tout jamais et c'est assez déroutant.
C'est très blockbuster ça, Frédéric Segrist. Ah,
mais complètement, ça m'a donné envie de le lire.
Et ça s'appelle donc Hôtel de Daisy Johnson, publié chez Stock. Le choix de Yolaine de Chanot à la une du Parisien Week-end en kiosque depuis ce matin.
Eh bien, on a fait un point sur le succès grandissant du tourisme fluvial. Les vacances à 8 km/h sur une péniche, eh bien, c'est pas ringard. C'est écolo, délicieusement lent et donc c'est évidemment au top de la tendance.
À la une du Parisien Week-end. Allez, elle est prête à nous présenter son ami du vendredi, Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Audicino.
Alors, chère Ali, la vie, c'est comme un jardin. Après la pluie, le beau temps. Après l'hiver, le printemps. Les racines, c'est dans le sol, et c'est bien, parce que ça repousse toujours. Bon, vous vous demandez ce qui me prend, là. Ouais, bah ouais, évidemment.
On se regardait tous.
Ouais. Donc, vous vous demandiez ce qui me prend, d'enfiler ainsi les clichés botaniques et météorologiques. Eh bien, c'est parce que j'ai l'intention d'être candidate à la Maison Blanche. J'y crois, parce que je prends pour exemple mon ami Chance, le jardinier, héros d'un petit livre de Jerzy Kosinski, publié en 1970, mais follement d'actualité, et adapté au cinéma par Al Ashby, 9 ans plus tard, sous le titre « Bienvenue Mister Chance » avec l'extraordinaire Peter Sellers dans le rôle. Alors, il était une fois un quinquagénaire candide. Enfin bon, c'est un euphémisme, disons-le tout net, il est idiot, qui n'est jamais sorti de la maison du vieil homme. Il a grandi là, il est devenu jardinier, et entre deux tailles de rosiers, il passe tout son temps devant la télé. Quand le vieil homme, son bienfaiteur, meurt, bah voilà le simplet jeté à la rue. Et les yeux écarquillés, il erre dans les rues de Washington. Une limousine lui roule dessus, le blesse à la jambe, et le voilà recueilli par Eve, l'épouse d'un riche industriel, confident du président des États-Unis. Il se présente à elle. Chance, le jardinier. Et la femme, évidemment, réinvente son nom. Faut dire que c'est beau. Chance jardinier comme Blaze, tellement poétique. À partir de là, on entre en absurdie. Tout le monde, que ce soit elle, son mari milliardaire et malade, et même ce pauvre président qui doute de tout, vont prendre le laconisme du jardinier pour de la sagesse et ses propos botaniques pour des métaphores éclairées sur la politique à suivre.
Et tout le monde prend Mr. Chance pour un oracle.
Ah oui, absolument, Ali. Alors, Mr. Chance ne sait rien. Mais que dalle. Toute son éducation est issue d'années à zapper devant la télévision. Mais dès qu'il ouvre la bouche pour balancer une lapalissade, les hommes de pouvoir y voient une vérité à décrypter. Et comme il n'a même pas de papier, le FBI et la CIA s'arrachent les cheveux. Mais c'est qui ce type? Brique-t-il le mandat suprême? Alors la fable caustique de Kosinski, auteur polonais au parcours fou, qui mériterait en soi une chronique, est un régal de platitude mais assumé. Et le film, un objet de cinéma doux en apparence mais très dérangeant. Et tous deux disent à quel point les hommes ont besoin de croire, de s'inventer des mythologies, quitte à prendre un simple d'esprit pour le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'un sauveur, même si c'est un crétin. Suivez mon regard. Mon ami Chance, grand ancêtre de Forrest Gump, vous vous souvenez, pour Forrest, la vie se résume à une boîte de chocolat. Bon, bah pour Chance, ça se résume à un jardin. Donc mon ami Chance prouve aussi que la réalité, quand on ne la perçoit qu'à travers un écran de télévision, est juste un spectacle qu'on peut zapper à l'envi et interpréter n'importe comment. Alors, morale de cette histoire que Chance lui-même n'a sûrement pas comprise, évidemment, arrêtez de se mêler du jardin des autres, surtout quand ils sont dévastés, vouloir les annexer ou y créer des stations balnéaires quand on n'est même pas capable de gérer sa propre coupe de cheveux.
En tout cas, vous m'avez donné envie de revoir Bienvenue, Mr. Chance d'Al Ashby avec Peter Sellers. On peut retrouver tous les épisodes de L'Ami du Vendredi à podcaster sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à cultiver son jardin ou son balcon en ce deuxième jour de printemps. Ce sera juste après avoir écouté Madonna, Don't Tell Me, une chanson sortie il y a 25 ans déjà.
To dry, tell the wind not to blow, 'cause you said. something that we do.
Madonna interprétée Don't Tell Me.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, week-end et ce matin, comment bien cultiver son jardin ou son balcon en ce deuxième jour de printemps. Avec nous, Philippe Collignon et Lola Perrier. Philippe Collignon, c'est le bon moment pour tailler. Qu'est-ce qu'on taille d'ailleurs ?
Un peu la dernière limite, on peut tailler les rosiers si on les a pas fait, on peut tailler les têtes d'hortensia, vous savez on les a laissées cet hiver pour protéger les bourgeons. Voilà, on taille les branches mortes, inesthétiques, mais on va commencer à lever le pied sur la taille. Sinon pratique.
Pourquoi il faut lever le pied d'ailleurs ?
Bah parce que la sève va commencer à monter, voilà, mais on peut pratiquer toute l'année ce qu'on appelle la taille douce, c'est-à-dire de couper quelques branches inesthétiques et laisser pénétrer la lumière dans l'arbuste ou dans l'arbre.
Et de façon générale, il vaut mieux, Lola Perrier, tailler quand le temps est beau et sec, jamais quand il pleut évidemment ou quand il gèle encore.
Oui, c'est préférable. Et puis, je pensais quand même à nos plantes comestibles. C'est aussi le moment de tailler des artichauts pour ceux qui en ont dans leur jardin, afin que les pousses repartent mieux pour plus tard.
Alors, Lola Perrier, justement, je rappelle que vous aviez publié un potager haut en couleur. Est-ce qu'on peut commencer un potager au printemps ? On n'en a jamais fait. On se dit, tiens, c'est peut-être le bon moment. On peut se lancer là ?
Oh, mais on peut complètement se lancer maintenant. Bon, alors par contre, il va falloir charbonner un peu pour préparer son sol, effectivement.
Qu'est-ce qu'on fait pour préparer le sol d'ailleurs ? Comment on s'y prend ? Voilà, j'ai décidé de me lancer dans le potager. C'est quoi le matériel, les outils ? Racontez-nous un petit peu comment on s'y prend.
Alors d'abord, il va falloir mesurer l'espace dont on a besoin. L'important, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que les bras quand même. Ensuite, on va donc, avec une tondeuse par exemple, on va enlever toutes les herbes qui vont être en surface. Ensuite, on va passer un bon coup de grelinette. Donc, la grelinette, c'est cet outil qui va permettre de décompacter le sol, mais sans retourner véritablement les deux horizons pour bien préserver tous nos petits insectes et nos vers de terre qui sont présents à l'intérieur. L'important, en fait, c'est de rendre cette zone propre. Donc, on va enlever toutes les herbes dont on n'a pas besoin, ce qu'on appelle les adventices, et ensuite donc mettre une bonne grosse dose de compost. Mais ça, une fois de plus, c'est pour les personnes qui ont la chance d'avoir un terrain. Si vous n'avez pas cette chance-là, bah, vous inquiétez pas, il existe la possibilité de cultiver dans un bac, qu'on va tout simplement remplir de compost et de terreau, ou bien... Pour ceux qui ont un balcon, on peut tout à fait le faire dans des petites jardinières, c'est tout à fait possible.
Philippe Collignon ?
Bah, si vous, en plus, si vous n'avez pas le temps de préparer votre sol ou si votre sol il est ingrat ou impropre à la culture, on peut faire ce qu'on appelle la culture en lasagne. C'est-à-dire qu'une couche de carton, une couche de tonte, une couche de branchage. Donc vous allez monter comme ça cette lasagne sur 70-80 cm et on peut semer ou planter par-dessus. La lasagne va diminuer au fur et à mesure de la saison et vous allez pouvoir cultiver et à la fois redonner de la vie à votre sol d'origine.
Donc j'ai décidé de me lancer dans un potager. Qu'est-ce que je plante ? On l'a dit tout à l'heure, de l'ail, de l'oignon. Qu'est-ce que je peux faire là en ce moment ? Qu'est-ce que je peux planter, Lola Perrier ?
Alors moi, ce que je préfère en ce moment, c'est que c'est la saison des semis. Et c'est la saison où je prépare tout ce qui sent l'été, c'est-à-dire les tomates, les poivrons, les courgettes. Vraiment, là, c'est le moment où on va préparer tout ce qu'on va pouvoir manger et nous sortir des courges, des butternuts et tout ça. Et en ce qui concerne les plantations en extérieur, effectivement, il faut quand même faire attention parce qu'on n'est pas tout à fait sorti des risques de gelée. Donc,
les fameux seins de glace.
Exactement, qui se terminent mi-mai, le 13 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va d'abord privilégier des cultures, on va dire, comme les salades, comme les épinards. Mais j'ai envie de dire, n'oublions pas les choux. Par exemple, le chou rave, parce qu'on a tendance à se dire, bon, je n'ai pas très envie de manger du chou en été. Non. Pourtant, le chou rave cru, c'est quand même super bon.
Alors, Lola, on ne se connaît pas trop, mais si vous m'invitez à déjeuner, vous ne me faites pas de chou rave, s'il vous plaît.
C'est vrai. Pourtant, vraiment, les fines lamelles de chou rave avec un peu de soja dessus, c'est hyper bon.
Philippe Collignon, qu'est-ce que vous conseillez de planter donc,
Moi, j'aime bien les semis en place. Aussi, on peut commencer les radis, les plantes un peu plus costauds, donc radis de 21 jours, 18 jours. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Et puis, planter aussi, remettre un peu de légumes perpétuels dans son jardin. Les topinambours, les rutabagas. Topinambours qui a un petit goût un fond d'artichaut. D'ailleurs, tous les grands chefs l'utilisent aujourd'hui, les chefs étoilés dans la cuisine. Voilà, de refaire un petit carré aussi de légumes perpétuels. On a du chou perpétuel, on a du poireau perpétuel, donc on coupe et ça repousse d'année après année. Et puis ce qui est bien aussi dans le semis, c'est que ça coûte pas cher. Par rapport aux gens qui vont acheter des plants après en jardinerie ou chez des spécialistes, on a un rapport de 1 à 15, de 1 à 10. Donc il vaut mieux semer, éclaircir, donner à son voisin que d'acheter des plants qui coûtent très cher.
Oui, tout à fait. Par contre, il faut avoir l'espace pour pouvoir faire ces semis, parce qu'on a vraiment un besoin de lumière, sinon les plants risquent de filer, c'est-à-dire qu'ils vont, là, ils vont un peu s'étioler, quoi. Ils vont devenir un peu trop fins. Et puis, il faut avoir la bonne chaleur aussi qui va avec, parce que, par exemple, pour tous les solanacées, en dessous de 15 degrés, ça ne va plus pousser du tout.
Les tomates, hein, par
oui,
exemple.
Oui, oui, les tomates, les poivrons, les piments.
Là, il faut attendre avril-mai que le sol se réchauffe bien.
En tout cas, pour les planter.
Pour les planter.
Oui.
Et quels sont les bons
parce qu'il y a un sol argileux et un sol sableux, donc d'où l'importance de connaître son sol. Un sol argileux se réchauffe difficilement au printemps, mais reste chaud en veille d'hiver. En revanche, le sol sableux se réchauffe très facilement au printemps, mais se refroidit très facilement en automne.
Quels sont les bons gestes pour réussir ces semis ? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, Lola Perrier ?
Oui, la première erreur, c'est de trop arroser. Parce que quand on arrose trop, en fait, on risque d'attirer la fonte du semis, quoi. C'est-à-dire une sorte de pourriture. Et bon, ça va être complètement raté. Et puis, je pense aussi, une fois de plus, qu'il faut vraiment bien maîtriser cette notion de température, une température constante. Donc, pourquoi pas acheter des nappes chaudes pour réchauffer votre petite plaque de semis. Et puis l'erreur ultime, c'est de semer dru, c'est de semer ses graines trop proches les unes des autres, parce qu'après le système racinaire n'a pas le temps de se développer. Donc bien faire attention à ça et au fameux adage du jardinier, qui sème dru, récolte menu.
Question Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, est-ce que pour les gens très très nuls comme moi, vous pouvez réexpliquer ou expliquer tout simplement ce que c'est qu'un semis ?
Mais le semis, c'est tout simplement l'acte de mettre une semence, une graine, dans un petit pot ou dans une plaque alvéolée pour obtenir un plantule, donc une bébé plante. Ensuite,
d'accord, naïvement, moi je pensais que les graines, on les mettait directement dans le sol, mais en fait non.
Ben, ça dépend des cultures. C'est le cas par exemple des radis, des carottes, mais ça ne va pas être le cas ni des tomates ou des poivrons ou des courgettes.
Eh bien, me voilà moins bête.
Grégory Cohen.
Moi j'adore les herbes aromatiques, on n'en a pas parlé,
ah oui.
Mais ça c'est un truc qui est exceptionnel, qui vient, qui revient. Faire gaffe à ce qu'on met. Par exemple, si on va mettre du fenouil, on va se retrouver à avoir, comme ça pousse, mais de façon absolument anarchique, c'est-à-dire dès qu'il va y avoir des graines, on va se retrouver avec du fenouil partout, et ça va même tuer les autres plantes à côté. Mais le thym, le romarin, la sarriette, l'oseille, la sauge, tout ça, c'est exceptionnel, et ça revient d'une année sur l'autre. Et ce qui revient d'une année sur l'autre aussi, c'est les fraises. les framboises, ça c'est quelque chose aussi de topissime à planter, la rhubarbe, pareil.
Tout ça, on peut le faire en ce moment ?
Alors, fraises et framboises, il faut attendre un tout petit peu, mais c'est très très bientôt. Mais herbes aromatiques, on peut y aller, hein.
Lola Perrier.
Oui, puis n'oublions pas les fleurs aussi, parce qu'il y a aussi plein de fleurs qui sont comestibles, comme la bourrache, la capucine. Moi, j'ai une petite préférence pour la tagette, parce que c'est un peu
C'est quoi la tagette ?
C'est un peu la fleur des chefs, pour moi. Ils l'utilisent beaucoup pour agrémenter leurs plats. Et
oui,
puis,
celle qui s'appelle la tagette agrume. Mandarine.
Agrume et lemon green ça, aussi. Ouais. Donc, tagette lemon, tagette agrume, qui vont vraiment avoir un petit goût de citron ou d'orange. Et c'est très beau, et ça se mange en plus.
Et ça repousse les nématodes du sol quand on les plante avec les tomates.
Alors, vous en avez parlé il y a quelques instant, Lola Perrier, si on n'a pas la chance d'avoir un jardin et qu'on a un petit balcon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On achète une jardinière, ce qui est important c'est quand même l'exposition.
Oui.
Si on expose énorme, bon, c'est un peu compliqué.
Il faudra faire des herbes.
Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors voilà, j'ai acheté ma jardinière, et qu'est-ce que vous conseillez comme plantation ou comme semis ?
Alors par exemple, les personnes qui ont envie de faire des tomates, c'est tout à fait possible, mais pour ça, il va falloir privilégier des variétés dites naines, donc qui ne vont pas dépasser 40 cm de hauteur. Et ensuite, il va falloir savoir bien intercaler ces cultures pour optimiser l'espace qu'on a. Donc on peut tout à fait faire un tout petit peu de carottes, si on a une jardinière qui est quand même assez profonde, et intercaler avec quelques oignons, par exemple. Et puis, je pense que quand on a très peu d'espace comme ça, il faut que les légumes soient récoltés le plus jeune possible, en fait, pour pouvoir toujours avoir de l'espace et bien organiser ses semis pour qu'à chaque fois qu'il y a un espace qui se libère, hop là, on en replante un autre.
Si, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'un potager, ça demande minimum 6 heures de soleil par jour, donc c'est pareil aussi sur un balcon. Faites attention, le balcon, il y a plusieurs risques. Il y a le risque du vent. Les légumes, ils détestent le vent, donc il faut quand même
Pourquoi expliquez-nous ?
Comme toutes les plantes, ça se dessèche très rapidement. Les plantes dans une jardinière, au 7e étage, au bout d'une heure, elles peuvent griller en plein soleil. Donc il faut peut-être un système d'arrosage automatique. Effectivement, il faut une bonne profondeur de sol. Il faut aussi planter dans de la matière noble, c'est-à-dire dans de la terre cuite. Éviter le plastique, éviter le zinc qui chauffe au soleil. Donc vous avez des températures qui montent à 50, 60 à l'intérieur de la jardinière. Donc ça, c'est rédhibitoire.
Donc les jardinières en plastique, on évite, si possible.
On évite ou alors on les double. C'est-à-dire on peut mettre du polystyrène à l'intérieur de manière à isoler. Pour l'hiver, d'ailleurs, ça marche aussi, mais pour l'été. Ou le zinc, c'est pareil. Le zinc, ça chauffe énormément au soleil. Donc, moi, j'aime bien la terre cuite, parce que la terre cuite, ça fait isolant. Et vous savez, quand on met une bouteille de vin dans un truc en terre cuite, ça refroidit le vin. Ben, c'est pareil pour une plante d'intérieur. La terre cuite refroidit légèrement la terre par rapport à l'atmosphère extérieure.
Vous aviez parlé de semis depuis le début de cette émission. Comment on choisit ces semis ? Qu'est-ce que vous nous conseillez, Lola Perrier ?
Moi, je privilégie toujours les variétés dites de population, qu'on appelle aussi un peu communément des variétés anciennes, parce qu'on va avoir vraiment toute une diversité face à nous. Il existe plus de 15 000 variétés de tomates. Donc moi, j'invite surtout les gens à acheter leurs semis sur Internet, plutôt qu'en jardinerie, qui offre généralement un choix un peu plus pauvre, parce qu'on va justement avoir la possibilité d'acheter des navets japonais, qui est un peu mon petit légume fétiche, et toute forme de variété colorée.
Tiens, qu'est-ce que vous faites avec ce navet japonais, Lola Perrier ? Comment vous le cuisinez ?
Avec du soja.
Pourquoi pas avec du soja ? C'est vrai que les Japonais, ils ont tendance plutôt à les mettre en bouillon. En tout cas, c'est un navet qui se récolte très jeune, qui a vraiment une chair très tendre, qui est tout blanc, un peu comme le navet de Tokyo. Il en existe un tout rouge qui s'appelle le Hidabeni, mais qui est un peu plus difficile à trouver. Le navet, il ne faut pas le mépriser, c'est vraiment...
Il y a un spécialiste de japonais en France, je ne me rappelle plus son nom.
Asafumi Yamashita.
Exact. Il est extraordinaire, ce garçon. Il parle à ses légumes, il les caresse, il livre les grands chefs à Paris, et c'est lui qui décide de la livraison. Savoir ce qu'il a mis dans la cagette, c'est pas le chef.
Alors, ça paraît anodin, mais... On peut parler à ces plantes, on peut les caresser. Non mais sérieusement, est-ce que ça joue dans le fait que ces plantes poussent bien, etc.
C'est un feeling, c'est-à-dire que quand vous tombez amoureux de quelqu'un, il y a un feeling. Vous savez pas pourquoi, c'est pas forcément l'aspect esthétique de la personne, mais c'est aussi le feeling. Donc il y a des gens qui ont le feeling, d'autres ils l'ont pas. C'est pareil pour le jardin.
Lola Perrier.
Alors je ne sais pas si ça joue, mais honnêtement moi je leur parle tout le temps et j'espère que ça les stimule à mort.
Frédéric Sigris, vous regarde dans le drôle d'air.
Mais moi, j'ai eu une très très grande relation avec un ficus pendant plusieurs années. Et puis après, les chemins ont fait qu'on a dû se séparer, mais j'en garde un très bon souvenir. Hein.
Il a perdu ses feuilles, non, il a perdu aussi ses feuilles.
Alors, pour résumer tout ce qu'on s'est dit, j'ai trouvé dans le Parisien Jardin quelques erreurs à ne pas commettre pour entretenir son jardin au printemps. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Alors, parmi les erreurs fréquentes, tailler trop tôt.
C'est vrai, ça peut, parce que ça peut faire geler, par exemple pour les hortensias, les bourgeons, si on les taille trop tôt, les hortensias en automne, ils peuvent, les bourgeons peuvent geler.
Trop fertiliser les sols.
Bah oui, ça va créer un déséquilibre, et puis ensuite les plantes ne vont pas pousser correctement, ça va donner des récoltes maigres.
Le trop est l'ennemi du bien.
Planter avant le 15 mai.
Ça dépend. En fait, ça va être OK pour l'épinard, pour les navets, par exemple, mais à condition de voiler, pour éviter vraiment que nos petites cultures aient froid.
Des voiles de plantation d'hivernage.
Oui.
Arroser au mauvais moment. Est-ce qu'il y a des moments idéaux pour arroser ?
Bah oui, on arrose de préférence le matin ou plutôt en fin de journée. On n'arrose jamais en plein cagnard, mais bon, là, on n'est pas encore trop concerné. Ça va. Et puis, il ne faut pas trop arroser, en fait. Il vaut mieux provoquer une sorte de stress hydrique pour que la plante aille vraiment chercher en profondeur et que ses racines creusent. Comme ça, elles auront plus de goût.
Pour terminer, mal nettoyer ses outils.
Ah bah oui, parce qu'ils peuvent rouiller. Un bon jardinier doit avoir des outils qui doivent durer. Les fers à outils, par exemple. Mais il faut désinfecter les fers à outils. D'ailleurs aussi, les lames des sécateurs, parce qu'on peut transmettre des maladies d'une plante à l'autre. Donc, un petit coton, de l'alcool à 70 ou à brûler. Et à chaque fois qu'on taille, on passe de plante à plante, on désinfecte les fers des outils et les lames des sécateurs.
Il adore jardiner. Ça, je suis pas sûr. En tout cas, il philosophe bien. Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, rend bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors Thibaut, vous vouliez nous parler du printemps qui commence.
Ben oui Ali, parce que le printemps c'est un peu comme le chocolat, on est tous censés adorer ça. Voilà, c'est le retour de la lumière, la hausse de la température, les arbres et les plantes qui bourgeonnent et qui vont bientôt s'épanouir en un torrent de fleurs multicolores ou de fruits multicolores aussi. Et dans bien des cultures et des traditions, c'est la saison de fêtes joyeuses où l'on célèbre le retour de la vie, la victoire contre la mort. C'est la puissance de la jeunesse qui sort de l'enfance et qui profite de sa nouveauté avant la pleine maturité de l'été à venir. Et si l'on va plus loin encore, le printemps passe même dans nos conversations pour désigner des périodes de révolution et d'espoir. On a parlé par exemple du printemps de Prague ou des printemps arabes. Il y a près de 150 ans, les communards chantaient leurs rêves de transformation sociale avec le temps des cerises. Et puis plus proche de nous, enfin, souvenez-vous, lors de sa première campagne électorale pour la présidentielle, Emmanuel Macron récupérait la formule du philosophe Alain Pensée Printemps pour nous faire croire qu'avec lui, tout allait changer. Le printemps semble donc inviter naturellement à l'optimisme et à la bonne humeur. Il suffirait de se laisser porter par ce grand réveil des cycles naturels pour retrouver l'espoir, aller mieux et sortir donc des multiples dépressions hivernales.
Je subodore, Thibaut de Saint-Maurice, que vous n'êtes pas totalement convaincu.
Disons que je le suis à moitié. Le printemps, bien sûr, n'est pas en cause et je suis le premier à trouver cette saison agréable, mais je me méfie un peu de son image et de l'usage que l'on peut en faire. La puissance du printemps, c'est la puissance d'un cycle dans lequel les choses se transforment naturellement. Mais dans le monde des hommes, les choses ne se transforment pas toutes seules. Pour que le monde change, il a besoin de nous, de notre implication, de notre engagement. C'est ce qui fait que nous, les hommes, nous avons une histoire, tandis que la nature n'a que des saisons. Ne confondons pas donc le temps cyclique et le temps historique. Dans nos vies, à chacun et chacune d'entre nous, il n'y a pas de printemps, mais il y a des continuités et des ruptures. Des changements, certes, mais que nous décidons et dont l'écho ou le sens relèvent au fond de notre responsabilité. Alors en disant « penser printemps », le philosophe Alain disait en fait surtout ce cela. Si on lit le texte en entier, un peu avant donc, dans le texte d'où est extrait cette formule, il rappelle que ce qui nous arrive nous surprend toujours, mais qu'il dépend de nous d'en faire quelque chose de bon et de profitable pour le progrès de notre liberté. Or, il n'y a rien de plus prévisible que le printemps, parce que ce n'est que la saison d'un recommencement et finalement d'une répétition. Et le paradoxe, c'est qu'à force de répétition, eh bien, plus rien ne change. Alors ne soyons pas victimes du printemps et de sa douceur. Réjouissons-nous, certes, du retour des fleurs, des cafés en terrasse et des pique-niques, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de progrès dans nos vies et dans le monde que pour autant que nous le décidions et que nous nous y employons ou que celles et ceux qui en ont le pouvoir s'y engagent. Plutôt que de recommencer, eh bien, commençons. Je ne dis pas que c'est facile, et pour le philosophe Yankelevitch, commencer c'est même ce qui demande le plus de courage dans notre vie, mais c'est ce qui fait que ce printemps qui vient sera différent des printemps des années passées, et c'est ce qui fait aussi que ce printemps et que printemps après printemps, eh bien, nous aurons fait de nos vies autre chose que des destins tout tracés.
Guillemette Odissino.
Bah, c'est brillant, bah, c'est exactement tout le contraire de ce que raconte mon Mister Chance. Voilà, donc en fait, c'est Thibaut de Saint-Maurice qui devrait conseiller les grands de ce monde.
Tous les épisodes de votre chronique philo sont à podcaster sur l'appli Radio France. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de notre chef Grégory Cohen, qui vient donc de fêter son 57e anniversaire. Grégory Cohen, une recette grecque à partager, je vous la laisse la prononcer.
Ah oui, oui, alors ça s'appelle des loukoumades, c'est les loukoumades de ma belle-mère, Nafsika, et dans sa cuisine, alors la préparation des loukoumades, c'est un véritable rituel le dimanche après-midi, et c'est objectivement...
C'est une recette sucrée. Hein.
Très sucrée, un peu gras,
très gras.
Il faut se dire qu'on peut faire du sport après, sans modération. Alors, on y va, pour à peu près 6 personnes. Et c'est à peu près 30 beignets. On va réaliser...
5 par... Ouais, c'est bien, oui. 5 personnes. Bah oui.
Des mini-beignets. Allez, on y va. Pour la pâte, il nous faut 500 g de farine tamisée, 2 sachets de levure boulanger, 350 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et évidemment, pour le nappage, on y va, c'est du miel, 300 g, 100 ml d'eau, un bâton de cannelle, de la cannelle en poudre, des noix concassées et de l'huile pour la friture. Alors pour activer la levure, on va démarrer par activer la levure avec l'eau tiède, le sucre, et on va laisser mousser environ 10 minutes. Ensuite, on va incorporer la farine tamisée en pluie, on ajoute le sel et l'huile d'olive, on pétrit avec amour évidemment pendant 10 minutes, on couvre d'un linge propre, idéalement Frédéric, et on laisse lever 1h30 près du radiateur ou de la fenêtre. On va en même temps réaliser son sirop au miel, on fait chauffer le miel avec l'eau, on ajoute le bâton de cannelle et c'est prêt, on réserve, on met de côté. Il faut que le sirop ait diminué d'un tiers à peu près pour qu'il soit sirupeux et assez un peu plus épais. La cuisson, c'est le moment crucial, évidemment, on va mettre de l'huile, on va rajouter un peu d'huile et encore un petit peu d'huile et on va monter tout ça à 170 degrés, on forme des petites boules avec 2 cuillères mouillé pour pas que la pâte colle trop. On va cuire les beignets, pas plus de 6 à la fois. On va les tourner délicatement pour avoir une dorure parfaite. C'est terminé. On les sort, on les met sur un papier absorbant juste pour avoir bonne conscience. Et ensuite, on dispose les beignets en pyramide, on arrose généreusement de miel chaud, on saupoudre de cannelle, on parsème de noix comme une couronne de bijoux. Le miel doit couler comme une rivière d'or. C'est incroyablement bon. Je vous les conseille.
Et Frédéric Sigris se demande combien d'heures de crossfit pour éliminer un loukoumades de votre belle-mère Nafsika.
On est en année.
La recette de Grégory Cohen, les loukoumades de sa belle-mère Nafsika, sont à retrouver sur son compte Instagram, Grégory Cohen off avec
2F.
Dans un instant, la chronique Mauvaise langue de Frédéric Sigris cette semaine. On écoute Ours, à quoi tu penses ?
À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses, à quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini, fini la comédie? Chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumbas la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini?
Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles. Faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête.
Ah. quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? C'était mieux avant, même si c'est pas vrai. J'avais tout le temps je l'avais. Chanteur à 20 ans, les cheveux emmêlés. J'étais dans le vent et ce vent m'allait. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses?
Ours interprété à quoi tu penses.
France Inter.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
Rends bien vous fasse.
C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Mauvaise langue avec cette semaine, l'ami Frédéric Sigrist.
Alors avant toute chose, Ali, je voulais vous remercier de vous battre pour me faire exister sur cette antenne en dehors de l'été. Vraiment, je tiens à vous dire que sincèrement, ça me touche. Mais quand même, après les gaufres et les beignets, là, on va parler jardinage et potager, sérieusement? Vous êtes dit Sigrist, c'est mon gars sûr pour parler de cucurbitacées, en fait. Vous savez combien de fois par jour les gens me demandent à quelle saison planter les hortensias? Eh ben jamais. 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 C'est bien simple, ils me demandent pas. La seule fois de ma vie où j'ai fait du jardinage, c'était dans Animal Crossing, dans Nintendo, sur Nintendo Switch. Et même là-dedans, franchement, au bout d'une semaine, mon île, elle était dégueulasse. Mon île, c'était une ZAD. Super Mario, sur mon île, il avait des dreads, il jouait du didgeridoo. Et Luigi, il était défoncé au CBD. C'était une horreur. Jardiner, moi, mais jamais de la vie. Franchement, si moi, je savais faire pousser des choses, j'aurais commencé par me faire pousser les cheveux, soyons logiques. Et puis, pardonnez-moi, Ali, mais je vous pose la question, c'est quoi le projet, en fait, de sur cette émission? Parce que le lundi, Emmanuel Macron, il annonce à la fraîche la Troisième Guerre mondiale, on reçoit des petits manuels de survie gouvernementaux en cas d'attaque nucléaire dans nos boîtes aux lettres, et vous, vous vous dites, ah bah tiens, est-ce que ce serait pas le moment idéal pour planter des crocus? Non mais dans Mad Max, c'est le seul, Ali, c'est le seul qui conseille à Mel Gibson de faire un clafoutis vegan. C'est le moment. Et vous pensez aux auditeurs quand ils écoutent France Inter comme moi tous les jours? Vous vous rendez compte que quand on écoute France Inter depuis le matin, ça donne Trump, Poutine, Netanyahou, Betaram, Butternut. Y'a rien qui vous choque? Non parce qu'en ce moment, Ali, France Inter, c'est le seigneur des anneaux. Hein. Sauron a envahi la terre du milieu, on nous explique tous les jours qu'il y a des orques, des trolls partout. Mais pendant ce temps-là, grand bien vous fasse, c'est la comté. Ali, c'est un hobbit. En plus, j'écoute l'émission depuis le début, mais il y a quand même un conseil que vous n'avez pas donné pour bien démarrer le jardinage. Avoir un jardin. Non, parce que vous me faites rigoler, vous. Oh, faut la main verte, faut des cartons, faut des semis. Oui, enfin, faut surtout une maison, un terrain, deux salaires, un bon apport, des garants, un crédit remboursable sur 25 ans et des graines. C'est quand même pas le premier truc. Oh, bah, c'est de tout le monde en a, voyons. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut aussi jardiner sur son balcon. Oui, ben, moi, je joue au baby-foot, c'est pas pour ça qu'on m'appelle Mbappé. Hein. Le problème, en fait, c'est qu'on s'est tellement éloigné de la nature, du rapport à la terre, que nous, les citadins, on en est à avoir des orgasmes quand on reçoit un panier de la map. Si on est là, oh, des potimarrons! Ça fait 6 semaines qu'on bouffe des potimarrons! J'en peux plus, des potimarrons! Une pomme par jour éloigne le docteur, dit-on. Un potimarron par jour évite un suicide d'agriculteur. On paie une fortune des légumes moches que nos grands-parents mangeaient parce qu'ils n'avaient pas de fric. Mais cette envie de faire pousser des plantes ou des légumes, on le dit pas assez, mais c'est surtout une manière de se redonner du temps. Le jardinage, c'est l'art de se soumettre de nouveau à la dictature bienveillante du temps. Le temps qui fait, le temps que ça pousse. À une époque où tout va si vite, l'actualité, les tweets, le temps de cerveau disponible, Amazon, Google, Meta, l'arbre ou la plante prend le temps de grandir sans se faire remarquer. Une société qui a fait disparaître ses parcs, ses jardins ou ses forêts, c'est une société qui cherche tout simplement à faire disparaître le temps. Et bien finalement, je vous présente mes excuses, Ali. J'ai compris pourquoi vous avez choisi ce thème, parce qu'on y est quand même vachement bien dans la comté.
Et sachez que je suis fier d'être un hobbit, mon cher Frédéric Sigrist, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Hein. Et on peut retrouver tous les épisodes de Blockbuster sur l'appli Radio France. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Guillemette, Frédéric et Yolène, ainsi que Grégory. Merci Lola Perrier, un potager haut en couleur, c'est chez Marabout. Merci beaucoup Philippe Collignon. On peut lire avec profit, s'initier à l'aquaponie pour les nuls. C'est publié chez First. Et votre petit livre là, intéressant, c'est Le petit guide du jardin sans eau, toujours chez First Edition. Et ça tient dans la poche arrière d'un
jean.
Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lysiane Larbani et Cyrine Benyounès avec l'aide d'Antoine Poitras. À la réalisation, Claire Destacan et Maria Pasquet. La programmation musicale était signée Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve avec plaisir à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, quels sont les véritables effets des écrans sur les enfants? Nos invités, pédiatres et neurologues, parleront d'une pandémie numérique et même d'un désastre sanitaire.